La Jordanie est un cas tout à fait à part pour plusieurs raisons. Elle est effectivement dans une situation économique très grave, c'est-à-dire qu'un lourd plan de rigueur a été lancé depuis une dizaine d'années et elle est au bord du gouffre. Tout simplement, le premier facteur, c'est la situation économique liée au régime. C'est-à-dire que le royaume hachémite de Jordanie est soutenu par 36 chefs de tribu bédouines qui ont contesté non pas le régime, mais le mode de fonctionnement du pays qui justement était entré dans cette politique de rigueur très suicidaire pour l'ensemble des Jordaniens. C'est un pays qui n'a pas beaucoup de richesses, c'est un pays qui n'a surtout pas du tout d'eau. Elle fait partie des 10 pays les plus arides au monde. Et le deuxième problème, c'est évidemment le problème des réfugiés et c'est évidemment la question des réfugiés syriens puisqu'ils sont actuellement près de 500 000 dans le pays.
Plus de la moitié de la population du royaume est constituée de Palestiniens auxquels sont venus s'ajouter des réfugiés irakiens puis syriens. Cette nouvelle vague d'immigration est-elle véritablement un facteur de déstabilisation?
C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez une population immigrée, ou en tout cas une population de réfugiés qui devient aussi importante, elle peut être un facteur d'instabilité, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de production, d'activité économique au sein même du pays pour pouvoir permettre d'engranger cette population qui serait évidemment soutenue directement par l'État. La Jordanie est dans cette position-là aujourd'hui de demander une aide internationale sur ce motif-là. Elle l'avait déjà fait en 2012, elle avait lancé un grand appel aux dons internationaux à partir du moment où elle a vu arriver les premiers réfugiés syriens. Et avec l'expérience qu'elle a, elle savait très bien que ça poserait à terme un problème.
Le mouvement de contestation économique et sociale appelle, selon vous, principalement à la mise en place de réformes institutionnelles plutôt qu'il ne vise directement la chute de la monarchie.
Les contestations économiques et sociales qui ont eu lieu et qui ont été soutenues par les tribus bédouines n'aspiraient absolument pas à ce renversement de la monarchie. Il y avait véritablement une volonté de moderniser la Jordanie, de faire de véritables avancées en termes de soutien à l'économie, d'ouverture en termes de droits de l'homme et de la presse, et véritablement d'être dans un processus qui glisserait vers une monarchie beaucoup plus participative et un système politique beaucoup plus moderne qui ne serait pas uniquement entre les mains du palais.
La Jordanie a été effleurée par les printemps arabes mais n'a pas été ébranlée. Qu'est-ce qui aujourd'hui préserve l'unité du pays ?
Je crois, la monarchie, à partir du moment où elle n'est pas contestée par la population et qu'elle reste un ferment et un garant respecté de la part des Jordaniens, a déjà une importance considérable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de contestation du mode de fonctionnement du palais. Je repense par exemple aux contestations qui étaient faites sur le niveau de vie de la reine, le train de vie du palais. Il y a eu une demande à ce que d'un côté les Jordaniens n'aient pas à se saigner comme ils l'ont fait depuis une dizaine d'années et de l'autre côté que le palais prenne un peu plus en considération cette restriction économique nécessaire pour tout le monde et le palais a commencé à s'y plier. Le deuxième argument, le fait que la Jordanie soit un allié majeur des Américains et qu'elle représente un véritable pivot de stabilité entre les trois pays qui sont très instables tout autour, je ne pense pas que les Américains pourraient laisser faire une déstabilisation du roi Abdallah II de Jordanie.